Je vais maintenant inviter Jean-Jacques et Jean-Luc à me rejoindre pour un temps de recherche de Dieu. On a chanté qu'on voulait chercher Dieu pour vivre. Avec eux, on va pouvoir rechercher ce que Dieu nous dit. Et je vais prier pour remettre ce moment. Seigneur, je te prie de bénir Jean-Luc et Jean-Jacques qui ont préparé ce moment. Je te prie de les inspirer, de leur donner ta sagesse pour partager sur ce texte que tu leur as mis à cœur.
Amen.
Nous te prions, Seigneur, aussi de nous bénir chacun de nous. Rends nos cœurs ouverts à ce que tu vas nous dire à travers la parole de tes deux serviteurs. Amen.
Amen. Bonjour, chers amis. C'est un bonjour un petit peu plein d'émotions et de tremblements que je vous adresse ce matin, parce que voilà, nous nous sommes proposés de vivre l'expérience d'une prédication à deux voix, deux regards, deux interprétations. Donc, comme cela a été dit, je serai en dialogue avec Jean-Luc Chollet. Il y a peut-être des personnes qui parmi nous ne le connaissent pas. Il faut dire que Jean-Luc est donc l'un des fidèles membres de la communauté à laquelle il a beaucoup apporté, avec bien sûr son épouse Laurence. C'est la dynamique de leur couple qui a été tellement riche pour cette communauté. J'ose pas énumérer le nombre d'années que vous avez été là comme des fidèles piliers de la communauté. Par ailleurs, Jean-Luc est agriculteur, l'un des derniers agriculteurs de la commune de Lausanne, puisqu'il était à Roveréa, sur les hauts de Lausanne. Et je me souviens toujours, c'est un vieux souvenir, que Jean-Luc me disait que lorsqu'il trayait ses vaches, il récitait le grec qu'il avait appris au gymnase. Jean-Luc a vécu un long engagement politique, aussi bien au niveau communal qu'au niveau cantonal, comme député au Grand Conseil. Mais je ne sais pas pourquoi je mets cela au passé, puisque cet engagement est encore très actuel. Et il a de l'énergie pour poursuivre sa vocation d'engagement politique. Voilà, écoute, si tu as d'autres choses à dire à ton sujet, je te laisse la parole. Je dirais simplement que c'est Jean-Luc qui a choisi le thème de notre méditation du jour, c'est-à-dire Luc 12, 12 à 34. Je dirais aussi que nous ne nous sommes pas du tout concernés.
Concertés.
Merci, tu vois, l'interaction intervient déjà. Et je vous avoue que c'est pour moi un exercice plein de défis. Moi qui aime toujours préparer mes prédications, mes méditations, moi qui suis très attaché à mes notes, pour Jean-Luc, c'est certainement une pratique courante. Pour moi, je compte sur votre bienveillance parce que travailler comme ça, spontanément, sans filet, est un redoutable défi. Mais grâce à Dieu, j'ai bien dormi cette nuit, donc j'ose aborder ce défi avec confiance. Je vous propose le texte que nous allons méditer ensemble. Donc, on va dialoguer selon ce que Jean-Luc trouvera d'opportun pour méditer ce texte ensemble. Alors, nous y avons trouvé un premier titre, « Éloge de l'insouciance ». Mais en fait, ce titre nous posait quand même un certain nombre de questions. C'est pour ça qu'on l'a complété par un point d'interrogation. Donc, il s'agit d'un passage magistral, de l'énoncé d'une parole de Jésus. Cet énoncé se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 12, mais en fait, vous le retrouvez mot à mot textuellement dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6. Et si je vous dis chapitre 6 de Matthieu, vous avez tout de suite compris qu'il s'agit du sermon sur la montagne. Donc, il s'agit de ce qu'on peut appeler les textes fondateurs de l'économie du royaume. C'est vraiment le texte qui pose les fondements du royaume de Dieu tel que Dieu l'a révélé en Jésus-Christ. Jésus est face à une foule immense, nous dit le texte. Ça veut dire que sa notoriété est déjà bien connue. Il est en route vers Jérusalem. Les gens sont pendus à ses lèvres parce qu'ils ont décidé de faire de lui un roi, un prophète. Ils veulent le suivre. Et son enseignement est tellement novateur et bouleversant qu'ils sont attirés par son enseignement et ils désirent y adhérer et le connaître encore d'une manière encore plus profonde. Il est temps de poser les bases du royaume que Jésus est venu annoncer. Alors vous savez que Jésus dit « changez de comportement » ou dit autrement « repentez-vous, découvrez et adoptez un nouveau style de vie » car le royaume est proche, le royaume est là, le royaume est à votre portée. Repentez-vous, dit Jésus. J'avoue que c'est un peu curieux de dire cela à des pharisiens, les pharisiens, ça veut dire simplement des pratiquants du judaïsme, c'est les pratiquants majoritaires du judaïsme à l'époque, et les pharisiens qui étaient des gens extrêmement exigeants au niveau de l'obéissance de la loi. Les pharisiens étaient très attachés à un respect rigoureux de la loi. Alors quand même, dire à des gens qui sont très exigeants dans leur respect de la loi, repentez-vous, j'ai envie de dire que c'est peut-être un petit peu lourd, c'est peut-être rajouter une couche encore à des personnes qui sont quelque peu écrasées par toutes les exigences de la loi. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire par ce mot « repentez-vous » Eh bien, j'ai esquissé un fil rouge à notre contribution, donc c'est ce que je vous dirai à la fin. Maintenant, on verra si Jean-Luc va rompre le fil rouge et puis, lui donner d'autres couleurs, vert, noir, que sais-je, enfin, les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Bien, donc, les pharisiens qui sont des défenseurs de la loi, des hommes profondément religieux, qu'est-ce que Jésus peut-il bien demander en plus à des gens qui sont, on ne peut pas, plus proches de Dieu ? Donc c'est redoutable le défi de Jésus de dire à des gens qui sont très proches de Dieu, repentez-vous. Donc vous devez avoir un autre regard sur Dieu. Quel est l'enseignement novateur que Jésus apporte à ce texte ? Alors voilà le texte en question. Jésus dit ensuite à ses disciples, oui à ses disciples, mais en fait la foule est là et il l'entend. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Si donc vous ne pouvez même pas la moindre des choses, c'est-à-dire ajouter une coudée à la durée de sa vie, pourquoi vous inquiétez-vous du reste ? Considérez donc comment croissent les glaïeuls. Et merci pour ceux qui ont mis ce magnifique bouquet de glaïeuls. Les glaïeuls ne travaillent ni ne filent, cependant je vous le dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où la teigne ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voilà l'enseignement de Jésus qui a, à mon avis, vraiment quelque chose de fondamental pour la compréhension de ce royaume et que Jésus donne comme exhortation pour la repentance. Alors encore, dans la phase d'introduction et de présentation du texte, j'ai relevé que l'exhortation de Jésus, on peut identifier 4 étapes. Dans l'exhortation de Jésus. Alors je vais faire apparaître ces 4 étapes. Évidemment, c'est trop petit, mais vous verrez très bien pourquoi. Première étape, l'inquiétude. C'est le thème principal de ce passage qui apparaît 3 fois. Alors bon, là, je les ai fait apparaître en rouge, mais simplement, vous voyez, donc 3 fois, l'exhortation « Ne vous inquiétez pas », verset 22. « Pourquoi vous inquiétez-vous », verset 26. « Ne soyez pas inquiets », verset 29. L'inquiétude, là, merimno, c'est vraiment le fait de se préoccuper d'une manière anxieuse. C'est un souci qui épuise l'être humain, qui l'empêche de s'épanouir et qui est vraiment un fardeau pesant sur ses épaules. Alors, là, c'est les trois exhortations principales de Jésus, mais vous voyez qu'elles sont libellées en termes négatifs. « Ne pas ». Et vous avez une exhortation qui, elle, est exprimée en termes positifs. Recherchez le royaume de Dieu et ça est, toutes choses vous seront données par-dessus. C'est le verset 31. Alors, une fois qu'on a vu ces exhortations énoncées d'une manière négative, énoncées d'une manière positive, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ces exhortations nous sont données ? Et là, vous avez quatre raisons qui nous disent pourquoi. Alors, elles sont en bleu, donc c'est difficile à les repérer. Mais sincèrement, pour vous montrer la dynamique du texte et montrer comme vous trouvez au cœur du texte tout ce que vous pouvez percevoir comme dynamique. Alors, les quatre raisons qui motivent ces exhortations. Un, regardez les corbeaux. Deux, regardez les glaïeuls. Trois, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Quatre, votre Père vous a donné tout ce que vous recherchez. C'est ce qui est apparu en bleu dans mon texte. Et puis mon dernier point, qui est en fait une action active de Dieu, une action active, c'est la parole de Dieu qui performe ce qu'elle dit. Quand Dieu dit, les choses se réalisent. Alors la parole de Dieu qui performe ce qu'elle dit dans le texte, elle est là, votre... Non, c'est pas vrai. Elle est là, ne crains pas. Oui, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. En effet, ne crains pas, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc, voilà ce texte, voilà sa dynamique. Et maintenant, Jean-Luc, comment tu réagis à ce texte ?
Merci. Jean-Jacques, tout d'abord quelques remarques introductives. L'idée avait germé l'année dernière d'une discussion informelle et personnelle avec Claude Bécher où j'essayais de lui dire, où j'émettais certaines objections relatives à un enseignement qu'il nous donnait et je me rendais compte que je pouvais le faire en quatre yeux. Mais que si d'aucuns parmi vous avaient les mêmes objections ou les mêmes incompréhensions, voire les mêmes oppositions, ils ne pouvaient pas les manifester publiquement au risque d'être taxés tacitement, ce qui est pire que nommément, de manque de foi ou d'incompréhension. Donc il fallait pouvoir exprimer le fait qu'on n'avait pas compris ou qu'on n'était pas forcément d'accord. D'autre part, cet exercice, j'en aurais été totalement incapable à 20 ans, pour la bonne raison qu'à 20 ans, j'avais tout compris. C'était merveilleux. Je fonctionnais selon le système binaire, oui, non, c'est juste, c'est faux, le tout enrobé dans patois de Canaan, auquel je ne comprenais moi-même pas tout, mais qui me rassurait. Or, 47 ans après, je me rends compte que, loin de tout comprendre, il y a relativement peu de choses que je comprends, mais comme disait Gabin, ces choses-là, je les sais, et que celles que je ne comprends pas, non seulement mon acte de foi, c'est d'accepter de ne pas les comprendre, mais qu'elles nourrissent également ma foi. Parce que malgré tout, et je crois que la foi se nourrit également de nos doutes et de nos incompréhensions. Chacun porte sa croix, plus ou moins lourde, plus ou moins douloureuse, mais je crois que personne ne passe au travers. La troisième remarque liminaire, c'est que je peux me permettre de poser des questions, des doutes, parce que je ne suis pas ce que l'Écriture appelle un docteur de la loi. Je ne suis pas estampillé, sorti d'une école biblique ou d'une faculté de théologie, où j'aurais pour tâche d'apporter l'orthodoxie doctrinale. Je réclame le droit à l'erreur, étant donné que n'ayant pas de formation biblique, je n'ai que mon bon sens, qui est souvent juste suffisant et parfois absent. Voilà comme remarque introductive, mais je me base tout de même sur une conviction que nous partageons, ta parole est la vérité. Ceci m'amène à une autre réflexion, c'est l'extrême complexité de prendre la parole à la lettre. Là, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Je me nourris d'un verset ou d'une parole dans un moment donné, dans une situation donnée, et ce verset ou cette parole m'apparaissent, et c'est l'action de l'esprit. Mais si je me mets à prendre chaque verset au pied de la lettre, je les oppose dans un raisonnement intellectuel. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que c'est une ode à l'insouciance, voire à l'irresponsabilité, voire à la paresse. Si je prenais au pied de la lettre, si je prends au pied de la lettre, je vends mes biens et je les distribue, certes, je vendrai mes biens, mais après, je serai à la charge de la société via les prestations sociales, et c'est parce que l'Écriture nous demande. Je vous cite une anecdote. J'ai eu la chance, le privilège et la charge aussi d'être démêlé d'assez près à la liquidation du site de Vennes, de la Ligue, de ce qu'on appelait le camp de Vennes. Dans, je faisais un peu le commis voyageur entre la ville de Lausanne, la municipalité, et la direction de la Ligue. Et le chargé d'affaires de la Ligue n'a pas accepté le fait de vendre, mais il a mis en droit de superficie, c'est-à-dire plutôt que d'empocher ou d'encaisser un certain nombre de millions, il a préféré avoir une rente annuelle sur 8 ans, plus modeste mais régulière, car, disait-il, je les connais, s'ils encaissent des millions, de 2 ans, ils n'en auront plus un franc parce qu'ils auront tout donné. Donc, c'est en contradiction avec le fait « vendez vos biens ». Ça signifie qu'on a une approche de l'Écriture qui est nuancée, qui est réfléchie, mais qui n'est pas littérale. Parce que si on dit effectivement « ne vous souciez pas », alors, toute notre société et tous les progrès sociaux qu'on a faits, la prévoyance vieillesse, l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance invalidité, l'AVS, le deuxième pilier, le troisième pilier, la prévoyance liée, c'est quoi? C'est de faire que ce que je travaille aujourd'hui, j'en mets une partie de côté pour quand je serai vieux ou invalide. Mais c'est exactement, les corbeaux ne payent pas l'AVS, ils me mangent le maïs que j'ai semé. Merci Seigneur, je prends mon fusil et je leur tire dessus. Mais il y avait les corbeaux qui ont nourri Elie, d'accord. Mais toute notre action, et je le dis, c'est fondamental parce que dans nos assemblées, lorsqu'on a passé du stade de frère à l'œuvre à un stade de pasteur ou d'employé salarié, croyez-moi, c'était une sacrée bagarre qui n'avait rien de sacré. Mais la vieille école contre la nouvelle, il a fallu faire admettre le principe qu'on les paye, qu'on les mensualise. Et Jean, tu te souviens, quand on a introduit la prévoyance professionnelle, le deuxième pilier, avant que ce soit obligatoire, auprès de ceux qui étaient nos salariés, ça a aussi été une bagarre. Également. Parce qu'on a un père riche, vous connaissez, on a un père riche qui les nourrit et on ne veut pas être comme les monts. Oui, mais aide-toi et le ciel t'aidera. C'est biblique, ça, Jean? Non, bon. Mais de temps en temps, je me dis, merci, je le garde quand même. Je le prends. Alors, c'est dire qu'une lecture littérale peut nous amener à des contradictions. D'ailleurs, comment inclure dans cette réflexion La parabole de celui qui veut construire une tour, se faire une tour de garde pour assurer la sécurité de sa vigne, et qui est parti dans l'enthousiasme, sans faire un budget prévisionnel, sans aller trouver son banquier, sans savoir quelles étaient ses économies, puis arrivé à mi-travaux, il n'a plus de rond, et puis le chantier s'arrête. Ça se voit de temps en temps. Hein? On n'a pas une grande estime de cette personne-là. On dit, mais dis-donc, s'il avait réfléchi un tout petit peu, eh bien, il aurait attendu, il aurait fait un plan financier, un business plan. C'est exactement le contraire de ce qu'on nous dit là. Je t'ai déjà mis assez pour que tu puisses me répondre.
Il y a quelque chose à dire.
Alors, allons-y. Oui.
Alors, merci de tes interpellations. C'est vrai qu'il y a quelque chose à dire. Je ne reviendrai pas au texte parce que j'y reviendrai tout à la fin. Non pas pour avoir le mot de la fin, puisque tu l'auras peut-être, enfin on verra, mais pour apporter ma compréhension du texte. Tu as raison de relever l'immense problématique entre la compréhension littérale du texte et une autre compréhension. Alors tu as eu la sagesse de ne pas nommer l'autre, alors c'est peut-être mon job d'essayer de nommer l'autre. Ceci dit, je ferai quand même un certain nombre de parenthèses. Si tu crois ne pas être apte à apporter une parole biblique ou théologique, ce n'est pas du tout mon point de vue. Je trouve au contraire que chacun a été investi par Dieu pour recevoir une parole pertinente dans le champ théologique, dans le champ biblique. Simplement, voilà, certains, c'est vrai, ont eu le privilège de développer leur réflexion, mais chacun est invité à avoir une parole pertinente. Bon, la question de la littéralité du texte. Je dirais simplement que je trouve que c'est un mot qui est piégé et j'essaye de sortir de cette alternative parce que dans notre société, dans notre culture actuelle, si on dit qu'il ne faut pas prendre le texte à la lettre, immédiatement on bascule dans le relativisme en disant que finalement les auteurs se sont trompés ou le texte est plus de l'ordre de la légende ou de la fantaisie, etc. Moi j'aime l'expression garder le sens littéral du texte tout en sachant et en reconnaissant que justement le sens littéral est très très divers. Le malheur pour nous dans notre culture du 21e siècle, et c'est un scientifique, un ingénieur qui vous le dit, pour nous ce qui est littéral c'est ce qui est mesurable, c'est ce qui est démontrable. C'est en science ce qui peut être reproduit comme expérience scientifique. Alors là, je crois que c'est quelque chose de vrai. Mais la véracité au sens biblique n'est pas du tout sur ce terrain-là. Un poème est parfaitement littéral. Une allégorie est parfaitement à prendre au sens de ce qu'elle veut dire littéralement. Quand Jésus utilise des paraboles, il utilise un vocabulaire allégorique. Et ce vocabulaire allégorique n'est en effet pas un vocabulaire factuel, mais c'est quand même un vocabulaire vrai. Le grand conflit autour de la littéralité ou du symbolisme, c'est évidemment le texte au sujet de la création. Toute cette problématique-là, je l'ai tellement souvent travaillé. Moi, je crois qu'il faut prendre les textes de la Genèse d'une manière littérale, mais le littéralisme de la Genèse n'est pas factuel. S'il n'est jamais dit que Dieu a créé le monde en 24 heures top chrono, puisque les montres n'existaient pas à ce moment-là, le soleil n'existait pas à ce moment-là, donc le cycle de 24 heures n'existait pas. Les 7 jours de la création, c'est des jours symboliques. Prenons le texte littéralement en sachant que l'enseignement, les mots utilisés sont symboliques. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te répondre. Maintenant, justement, moi je crois qu'il y a matière à prendre ce texte dans sa littéralité, mais peut-être pas une littéralité matérielle, mais une autre littéralité que j'aurai plaisir à partager avec vous.
Alors je crois que la clé qui nous permet de lire ces lignes sereinement et qu'elles nous nourrissent, la clé, c'est finalement le verset 34. car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Je crois que ça met toutes les choses dans leur juste perspective. On ne nie pas l'utilité de l'argent, mais on doit avoir cette distance par rapport à lui. Alors, je cite des exemples. Lorsqu'il y a 32 ans, nos assemblées ont acheté l'ancien hôpital de Châteaudet, qui est devenu Pro-Soleil. Humainement, c'était déraisonnable. On s'aventurait sur un terrain inconnu. Le social du troisième âge, une maison de repos. On avait à peine 10% de la somme. On flirtait avec les 2,5 millions plus autant pour les premières transformations. Quelque part, c'était déraisonnable. Et ces gens qui étaient loin, les pionniers, d'être déraisonnables, avaient une pondération entre le plan financier et l'oreille par rapport à ce que Dieu leur disait. Et ils avaient la conviction que ce qui apparaissait d'une manière cartésienne déraisonnable, ils pouvaient y aller en confiance parce qu'ils avaient la conviction que Dieu les y appelait. Et la suite a démontré qu'effectivement c'était juste. Et lorsqu'on parlait il y a 25 ans avec Don Stephens de l'achat du premier gros bateau, le
Mercy Ship,
ouais,
l'Anastasis,
c'était exactement la même démarche. Il y avait à la fois un plan financier très rigoureux, mais à la fois un acte de foi où il s'avançait dans l'inconnu. Pourquoi ? Parce que c'était des bons gestionnaires, des gens qui savaient manier l'argent, mais qui n'avaient pas mis leur cœur dans ce trésor. Alors ça me donne la clé pour comprendre. Je crois qu'il n'est pas un manque de foi pour un chrétien de cotiser et de sortir une partie du produit de son travail pour ses vieux jours. Je crois qu'il n'est pas déraisonnable également pour un chrétien d'essayer d'avoir une gestion financière qui soit saine, mais il doit quand même toujours avoir cette distance, je dirais, cet espace sanitaire entre l'argent qu'il gère, c'est ce que plus ou moins il ressort de nos prières, de celui qui amène les sachets ici, hein, dimanche après dimanche, en des termes parfois différents. Alors, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de somme. N'oublions pas que ce qui est du nécessaire pour l'un et du superflu pour l'autre, je vous cite une histoire qui est une parabole, mais que j'avais entendue dans une prédication, mais il y a un certain nombre de dizaines d'années, d'une personne qui n'avait jamais suffisamment pour vivre, et sa voisine, bien pensante et mieux lotie financièrement, lui avait offert 50 francs, et cette personne s'était précipitée chez le coiffeur pour se faire, on appelait à l'époque, une permanente. Et la donatrice en avait été fort irritée. Elle n'avait pas compris que d'abord, quand on donne, on donne. On n'a pas de droit de regard, quand bien même ça ne nous convient pas. Et ce qui était le superflu pour la donatrice était l'essentiel pour la récipiendaire, à savoir être de nouveau l'égal des autres pour en sortir en étant bien coiffée. Ceci pour vous dire qu'il est extrêmement difficile d'aller vouloir mettre des cautèles, et pire encore, d'aller mettre des sommes, et encore pire, d'aller s'arroger en droit de regard lorsque nous donnons à des personnes ou à des œuvres. Voilà, pour le moment.
C'est ennuyeux parce que j'ai rien à corriger. J'ai rien à expliquer. Je souscris pleinement. Donc là, on n'est vraiment pas dans la controverse. Quand tu dis qu'on ne nie pas l'utilité de l'argent, mais on sait garder une distance par rapport à lui. Et les bons gestionnaires savaient gérer l'argent, mais ne mettaient pas leur cœur dans leur bien. Je suis d'accord avec toi. Donc voilà. Mais alors, est-ce que j'en profite pour aller un peu plus loin ? Et puis, j'apporte ma conclusion, et puis toi, tu vas surconclure. Très bien. Allons-y comme ça. Donc, je crois que, pour ne pas froisser, évidemment, cette sensibilité qui tient à prendre le texte à la lettre, je crois qu'on peut le prendre le texte à la lettre, mais par contre, la lettre n'est pas du tout la lettre matérielle telle que nous la concevons d'une manière spontanée. Je vous ai parlé des gens littéraires, les poétiques, paraboliques, mais j'aurais pu continuer l'énumération. Il y a des genres historiques, il y a des genres apocalyptiques. Il faut bien distinguer les genres littéraires et prendre le texte à la lettre, c'est le prendre dans le cadre des genres littéraires qu'il est donné. Toutes nos confrontations consistent justement à mélanger cela. Alors, ma conclusion. Le message de Jésus, à mon avis, comporte deux dimensions. Il comporte l'attachement au royaume de Dieu et le détachement du monde sensible. Alors l'attachement au royaume de Dieu, il est apparu dans ce texte, donc rechercher le royaume de Dieu. On le trouve dans Colossiens, par exemple. Dans Colossiens, il est dit « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu ». Il y a des paroles d'une profondeur extraordinaire. Ben là encore, on sait bien qu'on est dans le symbolique, mais dans un symbolique actif, opérant, et pas simplement un symbolique évasif et purement, purement poétique. Donc votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Donc, le détachement du monde sensible. Ne vous inquiétez pas de la nourriture, des habits, des choses sensibles. Et ça, chers amis, c'est capital. Et c'est capital pour notre hygiène spirituelle. Je suis impressionné d'observer combien l'Église, au sens universel du mot, il ne s'agit pas de la communauté locale, mais combien l'Église, dans quelques communautés que j'aille ou que je regarde, que j'observe ou dont j'entends parler, combien cette distinction, si elle n'est pas opérée, elle crée des ravages dans les cœurs, dans les relations, dans nos identités chrétiennes qui sont vraiment dramatiques. Alors, je continue mon développement. Le monde sensible est formé par quoi ? Eh bien, il est formé par ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous expérimentons. Enfin, vous voyez bien que vous êtes dans un temple, qu'il y a des glaïeuls devant vous, vous voyez tout ça. Quand vous sortez, vous voyez des belles voitures ou des voitures toutes cabossées comme la mienne. Vous voyez, enfin bref, des trucs, c'est la vie. Vous voyez, vous ressentez, vous expérimentez. C'est d'une banalité impressionnante ce que je dis, mais quand nous ne mettons pas des mots sur nos banalités, nous ne les voyons pas. Donc voilà, ça c'est le monde sensible. Et ce monde sensible comporte deux types d'expériences. Il comporte des expériences heureuses et des expériences malheureuses. Le monde sensible, donc, c'est notre réaction, notre interaction avec tout ce qui est autour de nous. Et là, je m'empresse d'éviter deux contresens. Le premier contresens, c'est de dire, ah bon, alors puisque le monde sensible est discutable, j'utilise un mot prudent, alors je vais quitter le monde, m'enfuir et aller habiter dans un ermitage. C'est ce qu'ont fait beaucoup de moines au cours des siècles. Alors, je ne conteste pas leur pratique, elle a beaucoup de valeur, mais il faut voir dans quel sens et dans quelle dynamique ils sont. Les bons moines ne sont pas coupés de la société. Les moines, par exemple, du désert égyptien, savaient très très bien qu'ils étaient en lien étroit avec la société, tout en étant isolés dans leur monastère. Paul le dit clairement, il n'y a aucune raison de sortir du monde. Ça, c'est la première chose qu'il faut rappeler. Aucune raison de sortir de ce monde sensible, mais il convient de distinguer de distinguer notre rapport au monde. Donc, comme je l'ai dit, le monde sensible comporte deux types d'expériences, les expériences heureuses. Et alors, c'est intéressant parce que le texte que nous méditons, vous le verrez en le relisant ce soir ou cet après-midi, il fait suite directement à, alors cette fois-ci une parabole, du riche exploitant qui est content que ses champs aient produit tellement de bons grains qu'il peut dire à son âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Et à cet homme, eh bien, il est dit peut-être que tu vas mourir cette nuit-là. Donc, le monde sensible peut comporter des expériences heureuses et des expériences douloureuses. Alors, je continue. Dans le monde sensible, les expériences heureuses provoquent quoi ? Eh bien, les expériences heureuses provoquent la fierté, l'orgueil, l'autosuffisance. Je suis heureux, j'ai un bon métier, un bon salaire, mes champs rapportés, mes greniers sont pleins. Enfin, c'est la parabole que je vous donnais. Je suis fier de moi, j'ai gravi un 4000 mètres, j'ai fait 3 km à la nage en moins d'une heure. Enfin bref, il y a mille manières d'énoncer la fierté de la vie. Et puis, le monde sensible peut nous faire vivre des expériences malheureuses, douloureuses. Alors, dans les expériences douloureuses, la conséquence, eh bien, je vais développer de l'amertume, de l'aigreur, de la rupture, des colères, etc. Mais tout cela n'est encore pas moralement répréhensible, parce que c'est ce qui nous arrive. On ne va pas tout de suite plaquer un jugement moral a fortiori qui condamne sur chacune de ces expériences. Elles sont là comme un fait donné, réel, spontané de notre réponse existentielle aux sollicitations qui sont les nôtres. Le risque, c'est d'être englouti par ces réponses. Ces réponses légitimes, le risque, c'est que nous soyons engloutis par ces réponses normales. Vous voyez que je ne cherche pas à juger et moraliser les expériences de la vie, mais le risque, c'est que nous soyons engloutis par ces expériences. Et regardez autour de vous, ou regardez en vous, et je peux aussi regarder en moi, c'est impressionnant comme nous sommes tous menacés par ce type d'engloutissement. Combien de personnes qui ont vécu des expériences négatives dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail, voire dans leur église, développent toute une dynamique d'amertume, d'aigreur et de rupture. Combien de personnes qui vivent quelque chose d'exaltant disent finalement, voilà, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le plus puissant, donc je suis le meilleur et il ne m'arrivera rien. Alors, mon dernier dia, être attaché au royaume de Dieu me permet, dans les expériences heureuses, comme le disait Jean-Luc, de rester dans la reconnaissance, l'humilité et la générosité. Même si je vis quelque chose de beau et d'exaltant, eh bien, je sais que ce que je vis de beau et d'exaltant, je le reçois. Et ce n'est pas moi qui le produis. Et même si je le produis par mes efforts et puis ma créativité, finalement, qui suis-je ? Je suis encore un homme privilégié d'être né en Suisse, dans le contexte social qui est le mien, et de n'avoir pas des déficiences intellectuelles ou morales que peuvent vivre des personnes qui ont subi des dégénérescences ou des difficultés depuis leur naissance. Donc tout n'est que grâce, tout n'est que cadeau. Donc je ne peux avoir qu'une attitude de reconnaissance. Et puis, alors, dans les expériences douloureuses, je vais recevoir pacification et consolation de telle sorte que je ne sois pas englouti par l'amertume, le désir de vengeance, l'agressivité que je vais reporter sur mon entourage. Alors, c'est cela que signifie chercher le royaume de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je peux prendre littéralement ce texte à la lettre, mais non pas dans la lettre factuelle au niveau de mon vécu humain, mais dans ma lettre relationnelle par rapport au royaume de Dieu et ce que ce royaume veut instaurer en moi comme dimension nouvelle d'un être humain régénéré et restauré. Finir.
Oui. Alors, trois choses, je ne sais pas si je m'en souviendrai. Tout d'abord, on a vu des mots comme fierté, bravo Cholet, hein, je suis bon. Il y a une forme d'orgueil, mais pas la négative, hein. C'est de battre sa coulpe, d'apparaître comme un misérable vermisseau, je ne peux rien, je ne fais rien, et en attendant que les autres nous disent, mais ce n'est pas vrai, tu vaux mieux. C'est aussi une forme d'orgueil. Et je me souviens que Jacques Blandinier disait ici, il y a une vingtaine d'années, Dieu veut des hommes debout et des femmes. Debout, debout. Hein? Bon, ça ne veut pas dire assis, ça ne veut pas dire courbé en deux. Ça veut dire simplement debout, va avec ta force que tu as, sous-entendu que je te donne. L'autre chose, je pense, c'est que Christ l'a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les protéger du mal. Tu l'as dit. Alors ça signifie quand même qu'on ne peut pas dire qu'il y a des domaines de l'économie ou de la société dans lesquels on n'entre pas a priori. Je n'entre pas dans le monde de la banque, maman. Je n'entre pas dans le monde de la publicité, du marketing, la grande prostituée, puis alors la politique, n'en parlons pas. Et à ce moment-là, on laisse des pans entiers de notre société sans témoignage chrétien. Pas possible. Et ce n'est pas ce que nous demande l'Écriture. Alors, entrons-y, oui, debout, mais avec humilité. Et je peux vous garantir que, pour faire de la politique depuis un certain nombre d'années, mais c'est que l'école de la vie, hein, c'est ni bon ni mauvais. C'est comme l'eau, c'est akratopège, c'est sans particularité. C'est ce que nous en faisons. Et là, c'est tout un programme. Mais je termine précisément sur ce verset, « Là où est ton trésor, là sera ton cœur. » On peut dire « Amen » ?
Amen.
Merci.